Christophe, on va s'arrêter un petit peu sur le temps. On est à la veille de Rosh Chodesh à Darbet. Et donc on est au milieu de la période Michel Nichnas Adar Marbim Besimcha. On est en plein milieu de cette période. Chachamim, ils n'ont pas précisé si c'est Adar Aleph ou Adar Bet. Donc Michel Nichnas Adar, n'importe quel Adar Marbim Besimcha. Et on va essayer de parler de ça un petit peu. Il me semble qu'on avait déjà raconté un petit peu cette anecdote à propos d'un certain homme qu'on appelait Touvia.
Touvia.
Touvia était un homme équilibré, un peu plus normal, même plus que normal, un peu charismatique, respectable, très équilibré dans ses choix de vie, dans son mode de vie. Et avec la force des choses au sein de son entourage, dans sa ville, il était devenu une sorte de Dayan, mais qui n'avait jamais à trancher littéralement la loi en donnant raison à l'un, en donnant tort à l'autre. En fait, c'est un homme tellement droit, tellement exemplaire, tellement respectable et en plus charismatique que toute personne qui avait un conflit avec un autre, ils se rendaient les deux aller le voir et lui avait cette chokhmat chayim, cette sagesse de vie, de toujours trouver une solution qui allait convenir aux deux parties. Et donc par la force des choses, il était celui qui répandait les compromis au sein de la communauté, donc aimé, estimé, respecté de tous. Et un jour, il a eu affaire à deux protagonistes, dont l'un d'entre eux était un homme très riche, un homme de pouvoir, avec l'orgueil, avec la gava que cela implique. Et lorsque Touvia donc a cru bien faire les choses, comme avec les autres, il a donné son avis, il a essayé de trouver un compromis, bien entendu, que l'homme de pouvoir, l'homme riche, n'a pas accepté même le peu de tort qu'on entendait lui donner. Et il s'est dirigé vers le sultan de la ville, celui qui détenait le pouvoir absolu, un goy, en lui disant, écoutez, de toute façon, vous avez compris que vos services de police, de tribunaux, de loi ne servent à rien pour la communauté, puisque de toute façon, c'est lui qui se permet de gérer les problèmes de tout le monde, il prend des décisions, et donc il empêche vos pouvoirs que vous avez mis en place de réaliser ce qu'ils sont censés réaliser. Et donc voilà, il va l'accuser, il va l'incriminer. Sur ce, le sultan en question décide d'envoyer une troupe de soldats pour liquider tout simplement cet homme, s'en débarrasser. Et lorsque Touvia a entendu cette nouvelle que ces hommes étaient à la porte de sa ville, il a pris quelques affaires, il a mis dans son baluchon, il s'est dit, il faut que je me sauve et que je fasse ma vie ailleurs. Donc il est parti, il s'est sauvé. Et il arrive à un moment donné, donc quand il se sauve, pour sortir de la ville, pour s'éloigner, il fallait qu'il traverse le fleuve. Mais ce Touvia ne savait pas nager. Alors il rencontre là-bas un vieux marin, un homme qui avait l'habitude d'accoster les bateaux, etc. Il lui dit, écoutez, vraiment, j'ai besoin urgemment de vous, j'ai besoin d'un grand service. Je ne sais pas nager, il faut absolument que je me rende de l'autre côté de la rive. Alors, si vous pouvez me rendre ce service, je ne vous oublierai pas. L'homme se sentant un petit peu privilégié que Touvia lui demande un service. Il dit, bien sûr, je vais vous prendre. Et il va avec son courage. D'une main, il nage, de l'autre main, il tient Touvia sur lui. Et il commence à traverser. Bien que Touvia était un homme, on va dire, bien portant, normal. Mais bon, c'est Touvia, il porte Touvia, il était content. Et lorsqu'il s'approche de l'autre rive, alors Touvia lui dit, c'est vraiment gentil à vous, vraiment tous ces efforts, mais je vous promets, je vous assure, quand je retrouverai ma place, quand je retrouverai mon statut respectable et que je mettrai tous mes problèmes derrière, je vous promets que je respecterai ma parole, je ne vous oublierai pas. Et donc celui qui était en train de le faire passer a réalisé que... Attends, il est en train de me dire que maintenant il n'est plus rien, que maintenant ce Touvia est un vulgaire fugitif. Et tout d'un coup, il n'avait plus de force. Il a lâché Touvia. Touvia, il a coulé, il s'est noyé là-bas dans le fleuve. Et l'autre, il est sorti de l'autre côté de la rive. Alors un passant de l'autre côté arrête ce marin et dit « Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Mais pourquoi vous l'avez lâché ?» J'y arrivais plus. Il était trop lourd. Comment vous expliquez ? Mais vous avez fait trois quarts du chemin. Comment c'est possible ? Ben, il lui dit, écoutez, tant que j'imaginais que j'avais le privilège de porter Touvia, j'avais la force. Mais quand il m'a dit qu'il n'était plus rien, j'ai senti mes forces me lâcher et j'arrivais plus. Donc je ne l'ai pas jeté, mais j'ai plus réussi, tout simplement. Donc cette histoire, ce machal, nous rappelle combien, grâce à la simcha, un homme peut dépasser des limites qu'il pensait, qu'il considérait jusqu'aujourd'hui comme inaccessibles, inatteignables. Et que la simcha est capable de nous faire, nous dépasser de nous-mêmes de façon extraordinaire. Et ça veut dire que la simcha, en fin de compte, n'est pas... C'est pas une option. Bon, voilà, je suis un homme avec simcha, un homme sans simcha. Bon, bah, je suis un homme, j'ai mes capacités, j'ai mes forces. Bon, et la simcha n'est qu'un plus, c'est une qualité de plus. En fait, pas du tout. La simcha, si on pouvait la comparer à quelque chose de moderne aujourd'hui, c'est comme l'essence dans une voiture. Il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de force. Il n'y a que des limites. Il n'y a que des blocages. Et en fait, ça nous amène, il a une très belle phrase en fait, ça nous amène à comprendre la chose suivante, que ce n'est pas la réussite qui procure la simcha, mais la simcha qui procure la réussite. Et de l'autre côté, à l'instar de cette réflexion, quand on parle de la atzvut, qui littéralement veut dire la peine, la lourdeur de vie, la gravité. Au contraire, c'est quelque chose qui va limiter les forces de l'être humain. Le Admour HaZaken dans le Tanya, en quelques phrases, il résume ça avec un mishpat très intéressant. Il dit comme ça, « Tzarich ladat klal gadol » le Tanya dans le Perek Ravav, au 26e chapitre. Il dit « Il faut prendre connaissance d'une grande règle. » Au même titre que pour pouvoir atteindre la victoire d'un élément matériel, il prend l'exemple de deux combattants. Où l'enjeu est que l'un doit faire tomber l'autre. Il dit, si l'un d'entre eux se trouve dans un état d'esprit de lourdeur, il sera vaincu facilement, veillipol, et il finira par tomber, gamimu gibor yoter mechavero, même si il est véritablement plus fort que l'autre. Vekacha mamash benitzachon ayetzer. Il a dit, il en est de même pour vaincre les victoires de la vie du yetzer. Yefchar le natzro beatzlut ukvedut, avec un état d'esprit de gravité, de lourdeur, il est impossible de gagner la moindre victoire. Anumshachot me'atzfut v'timtum alev k'im bizrizut anumshachet misimcha u'ptichat alev et tarot. En fait, il est en train de dire ici, celui qui gagne dans un concours sportif n'est pas le plus fort, mais c'est tout simplement, on va dire, le plus enthousiaste, le plus léger, celui qui a le plus de simcha. Maintenant, au niveau, entre guillemets, religieux, c'est ce que les chassidim disent. Tout le monde en veut aux Breslev qui disent « Mitzvah gedola liot besimcha ». Bon, c'est vrai que c'est pas très juste, mais qu'importe. Bémet, en soi, peut-être que la mitzvah n'est pas une simcha, mais la simcha n'est pas une mitzvah. Mais en tout cas, la simcha amène à réaliser toutes les mitzvot. Et au même titre que la simcha amène à réaliser toutes les mitzvot, la peine, la lourdeur, l'inquiétude, tous les sentiments négatifs amènent, en fait, sont la porte ouverte à toutes les failles, à tous les défauts, à toutes les avérotes qu'un homme pourrait commettre dans sa vie. Le Rambam va encore un peu plus loin. le Rambam dans Ilchot Deot. Je vais citer deux Rambams qu'on va essayer de prendre à cœur, essayer de comprendre, de se donner les moyens de pouvoir y accéder. Le Rambam dans Ilchot Deot, Perek Alef Alacha Yud Dalet, il dit, là donc il parle de comportement, Ilchot Deot, ce sont les midot. Il dit, Lo yehe holel beletzanut pua. Un homme ne doit pas être excité avec une sorte de moquerie, on va dire, illimité, sauvage. Velo atsev veonen. Un homme ne doit pas aussi être dans un état de tristesse et lamentable. Et là, samer kol yamav benachat. Un homme doit être joyeux toute sa vie, benachat, de façon posée, mais sévère panim yafot, avec un visage rayonnant. Ça, c'est ce qu'il dit dans Ilchot Deot. Donc, pour lui, ça fait partie intégrante du mode de vie d'un juif. Dans Ilchot Lulav, à la fin d'Ilchot Lulav, il dit Asimchash ismach adam be'asiyat mitzvah ou be'avat akel. Il dit la joie qu'un homme doit se réjouir en faisant une mitzvah et en aimant Hashem shetziva bahen. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tous les matins, on fait notre fila, on remarque des choses, notre attention va sur des choses différentes à chaque fois. Mamash mina shamaim, peut-être, parce que j'avais préparé le cours. Mais ce matin, c'est ça que je me suis dit. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Mais quand on lit ça et qu'on essaye quelques secondes de ressentir ça, de ressentir d'aimer Hashem, v'chol levavcha, v'chol nafshecha, v'chol me'odecha, qu'on essaye de réaliser de tous mes membres, de tous mes moyens, de toute mon âme, de tout mon cœur. Immédiatement après, on dit Va'yu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha. C'est qu'on voit que la notion du tzivouy, la notion de l'ordre, est toujours juxtaposée à cette mitzvah qui consiste d'aimer, à un sentiment en fait, au sentiment d'aimer Hachem. Et comme par hasard, on revoit ça dans la deuxième paracha aussi. Va'yam shamoat ishmeu al mitzvotai asher anochi metzavechem. Les Ahava, encore une fois, on parle d'un ordre et on parle d'aimer. C'est ce qui rend peut-être difficile la chose, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à conceptualiser un petit peu cette chose. À partir du moment où c'est un ordre, comment tu veux aimer? Et c'est ce qu'on va essayer de poser un petit peu. Et dit le Rambam, donc pour finir dans les mots du Rambam, il dit la simcha qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne en faisant une mitzvah, il dit avoda gdola. Intéressant, les mots du Rambam sont très, très réfléchis. C'est un grand travail. Avoda gdola. Et il finit en disant Vechol amonea atzmo misimchazo. Et tout celui qui se restreint, qui s'empêche de ressentir ce sentiment de simcha, raoui leipara mimenu, mériterait de payer vis-à-vis d'Hachem sur ça, sur ce manque de simcha. Comme il est dit, Tachat Asher lo avatet Hashem Elokecha besimcha uvtuvleva. Comme il est marqué, parce que tu n'as pas servi Hachem. On parle des 98 malédictions là-bas. Ces 98 malédictions, tu les mériterais éventuellement parce que tu n'as pas servi Hachem besimcha uvtuvleva. D'accord, Merov Kol, etc. Et donc, bien entendu, la question qu'on peut se poser, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas une génération, enfin, on peut parler que de la nôtre, qui a un mode de vie autant anti-simcha. Mais maintenant, qui a du mal à installer une simcha constante, régulière, quotidienne. Il dit, ce sont des... Le Rav Ashkenazi ramène que Bémet, selon énormément de sondages, beaucoup de recherches ont été faites par différents sociologues, et on n'a jamais vu une génération aussi mécontente que la génération moderne d'aujourd'hui. Il dit que c'est un sentiment qui malheureusement se véhicule dans presque toute l'humanité, c'est ce mot qui revient, j'ai pas. J'ai pas d'estime de moi, j'ai pas suffisamment d'argent pour moi et pour mes enfants. Toutes nos vies sont rivées vers le besoin, et on a encore besoin. Il faut se remplir encore. Les médias veulent rendre accessible à travers leurs vidéos, à travers leurs images, C'est-à-dire la vie de gens privilégiés qui mènent une vie matériellement très très élevée en faisant croire à la population générale tout est accessible. On peut tous avoir ça. Il suffit d'avoir les bons numéros, il suffit d'avoir la bonne idée, il suffit d'avoir le bon physique. Il dit, et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, ce sentiment de simcha se fait de plus en plus rare, au moins difficilement accessible. Et il dit, c'était une belle phrase, il dit, simcha novat davka mitzniut, alors que véritablement, la véritable simcha provient de la pudeur, de la discrétion. Ve'anava, elle provient au contraire de la modestie. Ve'istapkut bamuat, et de la faculté de se suffire de peu. De même, comme c'est marqué, il y a un pasouk dans Yeshaya qui dit là-bas, Vayosifu anashim ba'ashem simcha. Vayosifu anavim, les uns. Qui a pu agrandir, rajouter au niveau de simcha, ce sont les anavim, les gens modestes, les gens simples, les gens humbles. Et notre génération est tellement le contraire de ça. Alors bien entendu qu'aujourd'hui, on a en droit de se poser la question dans notre intérêt. Bon, c'est bien beau, Mishinichna Sadar, Marbim Besimcha, on va en parler tout de suite. Mais comment on y arrive à ça? Comment c'est accessible? D'atteindre la vraie simcha, pas une simcha, on va dire, vernie, fausse, qui est complètement secondaire. Comment on arrive véritablement à la véritable simcha? Et surtout, comment ferait une personne qui aurait une nature mélancolique, nostalgique, sans arrêt rivée vers le passé, l'époque, avant c'était toujours mieux, etc. Comment est-ce que ces gens, il y a bien des natures comme ça, comment est-ce que véritablement la simcha est accessible pour tout le monde, sans exception? Et le rabbi est dans une de ses sichot sur Simcha ou Bitachon. Bon, lui pose la question de façon encore plus directe en disant, bon, à la rigueur, on peut ordonner, on peut imposer à un homme d'agir d'une certaine façon. Bon, j'ai pas envie de faire, on te dit fais. Bon, ben, je fais. Mais comment on peut ordonner, et comme le Rambam le dit, le Rambam parle d'un enjeu sur lequel on devrait donner des comptes si on ne l'atteint pas. Il dit, comment on peut ordonner à un être humain d'être sa mère? Bon, comment on y arrive? Et deuxièmement, comment la Torah peut se permettre d'ordonner sur un tel sentiment? Donc, on va essayer de juste faire un, avant de répondre à la question de façon directe, faire un petit crochet par cette fameuse phrase dans laquelle nous sommes et nous allons rentrer encore de façon plus forte. Cette phrase apparaît dans Maseret Ta'anit. En fait, donc c'est pas une phrase qui a été dite par les Chachamim comme ça, de but en blanc, Mishinichna Sadar Marbin Besimcha. C'est plus, ça a été dit, Keshem Shemi Shenichnas Av Mematin Besimcha, Kach Mishinichna Sadar Marbin Besimcha. En fait, cette phrase a été dite relativement au mois de Av. Comme le mois de Av, on diminue la Simcha, alors au mois de Hadar, il en est de même, il faut intensifier la Simcha. Comme c'est marqué dans la Megillat Esther, Ve'achodesh, Asher ne'epach lahem yargon simcha, u'me'evel yom tov. On parle du mois. Le mois qui s'est transformé de la tristesse à la joie et du deuil aux festivités. Mais ça, c'est intéressant, ça veut dire que nous, on a des jours de paix, comme on dit Shabbat Shalom, voilà, c'est le Shabbat. On ne va pas dire Yom Shlishi Shalom, Shabbat Shalom. Quand on va dire il y a une fête, bon, Chag Sameach. En fait, si on suit un petit peu cette vision des Chachamim, de Bezrat Hashem, à partir de demain soir, on devra se souhaiter Chodesh Sameach. C'est pas juste Purim Sameach, c'est Chodesh Sameach, puisque la Simcha est un enjeu qui doit être véhiculé sur la totalité du mois d'Adar, et pas seulement sur Purim. Et on voit que cette Simcha n'est pas juste, on va dire, une option morale, c'est une qualité, que ça serait bien de pouvoir y arriver. Cette simcha a une implication au niveau de la halakha. Je vous donne juste deux exemples. Premier exemple, déjà, première implication au niveau de la halakha, c'est que ce que la Gemara dans Tani d'Afraftet va dire, lorsqu'un juif a une complication, un conflit avec un non-juif, alors il devrait idéalement pouvoir s'organiser à le régler devant la justice pendant le mois de Hadar. Le mazal du mois de Hadar a une implication forte pour lui procurer de la simcha. Et deuxième implication au niveau à la... Donc là-bas, on ne parle pas, on dit pas qu'il doit aller régler son problème le jour de Pourim. Au mois de Hadar, en général, au mois de Hadar. Ben Hadar Alev, Ben Hadar Bet, l'un ou l'autre. Deuxième implication, c'est ce que le Rama ramène dans le Siman Tafresh Pezaïn, dans Shulchan Aruch. Là-bas, il dit qu'une personne qui prend le bateau, par exemple, qui part en voyage, et qui sait très bien que le jour de Pourim, elle n'aura pas de Megillah sous la main, elle ne pourra pas écouter la Megillah, d'accord, sur le Ktav, sur un parchemin, comme il est le devoir de chacun d'entre nous de l'écouter le jour de Pourim. Alors là-bas, le Rama dit, Bémet, il peut prendre une Megillah, alors qu'on n'est que le 5 Adar, il lit la Megillah avant de partir en voyage. Comme ça, c'est marqué. Amefaresh bayam va yotze beshayara, veno yachol lakachat imo Megillah, il ne pourra pas prendre une Megillah avec lui. Yeshomril, shekore afilu mitrilat achodesh. Depuis le début du mois de Adar, il peut lire la Megillah. Et le Rama dit vekach naoug, et c'est comme ça qu'on doit faire. Il y avait cette question, je me rappelle, moi j'étais jeune, j'étais avec Shivaktana, à l'époque c'était la guerre du Golfe. Et il y avait un soldat américain juif qui était parti, qui était engagé donc dans les troupes qui devait partir en Irak, et qui a demandé au rabbi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis la Megillah maintenant ou pas, par rapport à ce Shulchan Aruch? Et le rabbi lui a dit non, il n'y a pas besoin. Ça sera fini. Avant Pourim, ça sera fini. Et ça arrivait exactement comme ça. Avant Pourim, il a pu lire la Megillah. Bon. Et ça, c'est un scoop extraordinaire. On n'a jamais vu une personne qui va nous dire « Moi, je pars sur les îles, il n'y a pas de matzot à Pessah. Bon, je vais manger ma matzah le 5 Nissan. » Ou « Bon, tiens, il fait meilleur, je sais, voilà, la météo va pas être favorable le 15 Tichri. Par contre, au mois d'août, c'est encore sympathique. Je vais faire la souka maintenant, comme ça, au moins, j'ai fait mon devoir. » Je ne sais pas, ça.
Religion sympa.
On ne peut pas. Et pourtant, au niveau de la Megillah... On envisage. Tout le mois de Hadar, il peut lire la Megillah. C'est-à-dire que ça voudrait dire que si même si, à titre individuel, je parle, exceptionnel, s'il ne l'a pas lu avant et qu'il revient après, il a une Megillah, il pourra la lire aussi, même après Pourim.
Donc le rabbi ne lui a pas donné un conseil conforme à ce conseil-là.
Si, non, mais il lui a dit, parce que tu seras dans l'impossibilité de le lire. Ça, c'est quand, si jamais les problèmes continuent jusqu'à Pourim. Il voulait lui dire par là que les problèmes vont se terminer avant Pourim. Quand on regarde Rashi là-bas, dans la Seret Ta'anit, intéressant, Rashi économise et pense et pèse chacun de ses mots. Et dans son commentaire de Mishé Nichnas Adar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Yeme Nissim Ayu le Israël, Pourim ou Pessah. Pourtant, on dit Mishé Nichnas Adar. Et Rashi explique ces jours de miracles qui ont été favorables à Israël, qui sont Pourim et Pessah. Et bien, mettre le Yahavetz, Rabbi Yaakov Emdin, pose la question là-bas. Et c'est bizarre. Mishé Nichnas Adar, on ne parle que de Pourim. Pro-Rashi me parle de Pessah. Mais ben, si on met Pessah dedans, ça veut dire quoi? Les fêtes. Bon, alors, on va dire Mishé Nichnas qui se lève, Marbin Besimcha aussi. Mishé Nichnas Tishri, Marbin Besimcha. Tous les mois dans lesquels il y a une fête, on va dire Marbin Besimcha. C'est bizarre. Qu'est-ce que Rashi veut dire à travers ça? Et justement, le rabbi répondait à la question de Yahavetz en disant que Bémet, la simcha qu'on est censé ressentir au mois de Hadar n'est pas liée uniquement et exclusivement à Pourim. Bémet, c'est une simcha du mois de Hadar. Alors effectivement, dans la Megillah qu'on lit à Pourim, c'est marqué explicitement « va Chodesh Hashem », mais ça reste le Chodesh. Il dit pourquoi, d'où ça vient ça? Il dit parce que il faut reprendre le début de l'enseignement. Le début de l'enseignement, c'est Keshem, chez Mishé Nichnas Av, Mema'atin Besimcha. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de Av? On a vécu des drames, on a vécu des malheurs nationaux. Il dit, mais de façon répétitive. Par exemple, pourquoi la Gemara n'a pas dit Mishé Nichnas Tamuz? Au mois de Tamuz, voilà, Yudzein Tamuz, il y a 5 malheurs qui sont arrivés ce jour-là. Pourquoi on ne dit pas Mishé Nichnas Tamuz, Mishé Nichnas Av? Parce qu'on parle là-bas d'une succession. En fait, il y a eu l'histoire des Meraglim. Akadosh Baruch Hu a dit, à partir de là, vous pleurerez. Et donc, il y a eu, que ce soit le premier Beit HaMikdash, le deuxième Beit HaMikdash, que ce soit le Girouche Farad, là, l'époque où les Juifs ont été chassés d'Espagne, etc. En fait, c'est une date où, successivement, durant les générations, on est amené à vivre des choses difficiles. C'est pour ça qu'on parle, que la Gemara parle essentiellement du mois de Av et pas du mois de Tammuz. On fait référence à un enchaînement. Il dit, Bémet, et quel est l'événement qui a permis d'enchaîner la Simcha de Purim et la Simcha de Pessah? C'est Moshe Rabbeinu. C'est marqué là-bas quand Aman il a fait le tirage au sort et que c'est tombé sur le mois de Hadar. La Gemara raconte Aman Samar Simcha Gdola Shenafal Beyom Shemet Bo Moshe Rabbeinu Velo Yada Shebeyom Shemet Nolad. Comme ça la Gemara dit que donc en fait la raison pour laquelle Aman s'est réjoui parce que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Mais ça veut dire qu'en fin de compte Moshe Rabbeinu est né comme Chachami. Ça il savait pas. Et lui, il s'est réjoui sur le mois de Hadar en général. Alors que la Xéra, parce qu'en fait, ils avaient compris que dans le tirage au sort de Haman, il y avait plusieurs bacs. Il y avait un bac où il y avait 12 papiers pour les mois de l'année, et un autre où il y avait les numéros du mois. Donc quand il a vu le mois de Hadar, c'était sur le mois de Hadar en général. Et en plus, Haman n'a pas décrété de tuer les Juifs le 7 Hadar. C'était seulement le 13 Hadar après. Donc, il y a un décalage. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Le rabbi dit, moi, et ça a l'air très vrai, en tout cas. C'est que la raison pour laquelle Chachamim ont dit Mishin Nichna Sadar Morbim Besimcha, il dit parce que l'événement qui a permis cette succession de miracles en faveur de l'âme d'Israël, c'est la naissance de Moshe. La naissance de Moshe a été, en fin de compte, clairement, c'est dit par les Chachamim dans la Gemara, a été l'élément qui a empêché l'anéantissement des Juifs à l'époque de Pourim. Et à l'époque où Moshe était vivant, c'est l'événement qui a permis à ce que... Ouais, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui les a sortis d'Égypte. Donc, en fin de compte, la cause commune aux Nissim qui se sont déroulés, aussi bien le 14 Adar que Yetziat Mitzrayim, c'est la naissance de Moshe. Et c'est le mois de Hadar. C'est pour ça qu'il dit Mishi Nichnas Hadar Marbim Besimcha. C'est surtout le mois de Hadar, la naissance, l'événement de la naissance de Moshe Rabbeinu est un événement qui illumine et qui rayonne surtout le mois de Hadar. Tov. Revenons à notre question principale. Cette fameuse Simcha. Comment est-ce qu'on se l'impose? Comment est-ce qu'on la développe? Comment est-ce qu'on la construit? Comment est-ce qu'on l'installe? Comment on l'atteint, cette Simcha? Alors, il raconte une histoire qui illustre bien les choses. Ça s'est passé le deuxième jour de Soukhot, en 1970, dans le quartier de Kronaitz, aux États-Unis. Un drame était arrivé, une jeune femme, Madame Ginsburg, une jeune femme de 40 ans, mère de 5 enfants, est décédée suite à une maladie. Et donc elle laisse derrière elle un mari, veuf, avec 5 orphelins. Ça arrivait le deuxième jour de Soukhot. Quand c'est comme ça, selon la halakha, on repousse les Shivas après la fête. Donc ils l'ont enterré tout de suite, ils ne pouvaient pas prendre le deuil dans l'immédiat. Et on enchaînait directement avec la fête de Shmini Atzeret, Simchat Torah. Et Simchat Torah, là-bas aux États-Unis, bon, comme ailleurs dans le monde, une Simcha extraordinaire. Et ce fameux monsieur Ginsburg avait l'habitude tous les ans de se rendre dans l'est de Flatbush, un quartier voisin, pour justement là-bas, il prenait en charge la Simcha d'une communauté, il allait, il faisait danser des gens, les Torah. Et cette année, ses enfants se sont posés la question, qu'est-ce que papa va faire cette année? On n'a même pas commencé les Shivas. Hein. Cette année, peut-être qu'il va pas y aller, il va les avertir. Et on voit qu'à l'entrée de la fête de Shmini Atzeret, le mari demande à sa belle-mère, la grand-mère des enfants, il lui demande gentiment de les habiller en fête, parce que ce soir, ils allaient se rendre à Flatbush. Donc déjà, ils ont compris que le père avait décidé de ne pas changer de ses habitudes. Et non seulement il n'a pas changé de ses habitudes, mais quand il a été là-bas, Ben même s'il n'y a pas une année où il a dansé avec autant de simcha, autant d'enthousiasme, autant de légèreté. Et Bémet, ça a été une année extraordinaire au niveau de la simcha qu'il a procurée à tous ces gens. Il était poussé dans l'extrême. À tel point qu'il avait aussi, le rôle, quand il revenait de Flatbush, qu'il allait au 770 après, dans le chou du Rabbi, et c'est lui qui entamait les mélodies, des chansons qu'ils allaient chanter pendant... Et quand le Rabbi a fini sa sifra, alors il a commencé à entamer la première chanson, en russe, bon, en yiddish. Et quand le Rabbi a entendu qu'il avait tenu à maintenir son rôle par rapport à ses chansons donc, qu'il entonnait le jour de Simchat Torah, le Rabbi a violemment jeté sa chaise derrière lui. Les gens, ils ont cru qu'il allait tomber et il s'est mis à frapper des mains et à danser. Les gens qui étaient là-bas, ils l'ont jamais vu dans un état comme ça. Et quand il a perçu la profondeur de la simcha avec laquelle ce veuf qui n'avait même pas fait encore les shiva pour sa femme avait le courage d'entamer ces chants-là, ça lui a procuré une simcha extraordinaire. Et c'était pareil un simcha Torah unique dans l'histoire du 770. En tout cas, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ça, c'est en 70. En 90, 20 ans plus tard, un homme d'affaires appelle le bureau des Chabad pour leur dire, écoutez, je suis très intéressé à financer un projet pour les jeunes qui se déroulerait, si vous avez ça dans votre mallette, qui se déroulerait à Simchat Torah. Voilà. S'il y a des bahourim qu'il faut payer le billet pour aller dans une communauté à Simchat Torah, leur donner les moyens de faire une seouda, acheter des friandises pour les enfants, etc. Voilà, je suis là et je suis prêt à donner une grande somme. Alors, celui qui l'avait au bout du fil lui a demandé, mais est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous pousse à vouloir donner pour cette cause spécifiquement? Et il lui raconte que 20 ans en arrière, à l'époque, il était un jeune adolescent, il n'avait que 14 ans. Et il avait l'habitude de prier donc, dans la synagogue à l'est de Flatbush. Et que cette année, le Chabad, qui avait l'habitude de venir chez eux pour faire la simcha, et a exprimé quelque chose de merveilleux, d'innommable, tellement c'était intense. Et il dit, lorsque j'étais gamin, j'ai vu ce Chabad en train de chanter, de danser, de mettre autour de lui une simcha extraordinaire. J'ai demandé à mon père, ce type-là, il doit être au top dans sa vie, il doit s'éclater, il doit être très riche, il doit manquer de rien, il doit avoir que de la réussite. Et mon père m'a dit, non, ben, figure-toi qu'il vient de perdre sa femme et qu'il n'a même pas pu faire encore les shiva. Et ça m'a marqué, ça m'a choqué. Je l'ai vu avec ses enfants. Une telle simcha. Et depuis, en tant que gamin, je me suis juré un jour, quand j'aurai de l'argent, eh ben, je financerai un projet de simcha Torah. Je voudrais donner pour ça, pour répandre la simcha. Alors, vraiment, j'ai une histoire très très touchante. Et ça rejoint le texte qu'on a pris comme base, à savoir le Rambam. Le Rambam à la fin de Hilchot Lulav, qui nous disait que, à propos de cette simcha, le Rambam ne fait pas référence à un sentiment, ne fait pas référence à une sensation, à une réaction. Le Rambam fait référence à une avoda. Et si on va même jusqu'au bout des mots du Rambam, le Rambam disait avoda gdolai, avoda gdola. Généralement, quand on fait des travaux, c'est qu'on va changer quelque chose de concret. C'est quelque chose qu'on effectue, qui demande un investissement, un labeur, une certaine fatigue, et qui change les choses. Ça voudrait dire, en tout cas, d'après le Rambam, c'est clair, il n'y a même pas de polémique, il n'y a pas à philosopher sur ça. Le Rambam est en train de nous dire que cette valeur qu'on appelle la simcha est un élément, est une valeur accessible à tous, mais qui nécessite avoda gdola. Avoda, c'est un travail. C'est un travail. Bon, Hachem, on peut voir autour de nous des gens qui travaillent sur ça. Mais c'est quelque chose qui nécessite tout simplement une volonté, une détermination et surtout une rigueur. Une rigueur pour atteindre cette simcha. Maintenant, la rigueur dans quoi? C'est quoi? Comment j'arrive à avoir ce sentiment? Comme le Rabbi demandait, mais bon, c'est pas un acte, c'est un sentiment. Comment j'arrive à avoir cette simcha? Il dit, Bémet, en fait, si on essaye de comprendre profondément, de définir la notion de Simcha, c'est une sensation en fait qui donne une valeur à ma vie, une valeur à mon existence. Et plus je vais mettre en place, on va dire, des comportements qui vont m'aider, qui vont favoriser à donner de la valeur à ma vie, et plus effectivement la Simcha sera naturelle, sera accessible et sera réalisable. Et dit, Bémet, il y a deux éléments principaux qui peuvent nous amener à ça. Il dit, c'est la notion de dibourg et de marchava. On a tendance à croire que le lashon hara, par exemple, prenons le lashon hara. D'accord, le lashon hara, c'est bon, c'est la dafka colporter des choses sur une personne spécifiquement. Le lashon hara, c'est aussi dire des paroles négatives qui servent à rien, comme on va dire aujourd'hui. Tous ces réseaux dans lesquels, effectivement, on nous fait part de certaines détresses, et un tel est décédé, un tel est malade, et prenez 20 secondes, et prenez une minute. Et donc, en fin de compte, on est au courant de tragédies, d'événements durs, cruels, difficiles à encaisser, quotidiennement. Et tout ça, on va dire, tend à rendre notre vie beaucoup plus lourde. Il dit, est-ce que véritablement c'est quelque chose qui va contribuer à me rendre apte à ressentir la Simcha? Prenons un exemple. Lorsqu'on arrive à Yom Kippour, qu'on essaye de se débarrasser de nos fautes, Rachamim nous disent, comme le Rambam dans Yitro Tshuva le mentionne, il y a une mitzvah de Veit Vadou Atratatam, le vidouille. Et c'est quoi le vidouille? C'est pas s'asseoir et méditer, avoir de bonnes pensées, prendre de bonnes résolutions. Le vidouille, c'est dire les choses. Bémet, ça veut dire quoi, dire les choses? Combien de personnes peuvent dire Hachamnou, Bagadnou, Bazanou, etc.? Et pourtant, la sincérité, on va dire, du pardon, du regret, du changement, n'y est pas véritablement, profondément. Alors, c'est quoi cette notion de dire? C'est quoi cette notion de dire j'ai fait du mal, j'ai mal fait, j'ai pris les mauvaises décisions? Un deuxième élément qu'on voit justement au niveau de la parole, c'est la notion du lashon hara. Alors, on a tendance à croire que le lashon hara est sévèrement vu par la Torah de par les dommages qu'il causerait, les dommages sociaux, d'accord, que ça pourrait causer autour de lui, dans son business, dans sa famille, dans sa communauté, dans ses connaissances, dans son voisinage. Oui, parce que si je dis du mal d'une personne, alors les gens vont le regarder de telle et telle façon, donc il va perdre, etc. Mais quand on regarde un petit peu les halakhot de lashon hara, on s'aperçoit très vite que le lashon hara ne se résume pas au dommage que je cause franchement et véritablement à l'autre. On le voit par exemple à travers l'histoire de Myriam. D'après le Ramban, très connu dans Parashat Be'alotra, lorsque Myriam déplore le fait que Moshe Rabbeinu se soit séparé de sa femme, elle le dit devant Moshe. En fait, c'est une discussion qu'elle a avec Moshe. C'est une discussion dans laquelle elle fait part de son mécontentement sur le statut des femmes en général, parce que c'est une femme, donc elle ressent la détresse de Tzipora, elle veut dire à Moshe Rabbeinu qu'elle a du mal à comprendre, etc. Et pourtant, la tsaraat arrive. Donc ça prouve, et on sait très bien que de ces propos, de cette discussion, aucun mal supplémentaire n'a atteint Moshe Rabbeinu pour autant. C'est pas parce qu'elle a cette discussion avec Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu a perdu quelque chose ou a été malmené de par la communauté ou a dû subir et essuyer d'autres accusations de par les d'Israël. Non. C'est-à-dire qu'on voit que le Lashon Hara de Myriam, et qui fait partie, c'est extraordinaire, qui fait partie des Esser Zechirot qu'on est censé dire tous les matins, quand on se rappelle des 10 choses qu'on doit se rappeler quotidiennement, Yusrirat, Massé, Myriam, Anevia, on doit se rappeler de ces propos qu'elle a dit. C'est quoi ces propos? Elle a fait du mal à qui? En vérité, quand on réfléchit, cette personne qui a une discussion critique, déplaisante, et qui ne fait du mal, qui est inoffensive littéralement, fait du mal à soi. En fait, à travers cette critique, elle est en train de dévaloriser quelque chose par rapport à... Bon, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a? Moi, si je suis navi et on ne m'a pas demandé de me séparer mon mari pour autant. Donc, ce genre de discours a tendance je ne veux pas dire à profaner parce que ça serait trop fort, mais en tout cas à beaucoup moins valoriser son statut de Navi. Et bien même, comme ça, le Rabbi expliquait qu'on voit au niveau de la Tzara'at, le mécanisme de la Tzara'at, tel que la Torah le dit, d'abord ça touchait les murs de la maison de l'individu, ensuite ça touchait ses habits, et seulement en fin de compte ça le touchait à lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à force de dire les choses, tout ça pour essayer de comprendre la notion du dibour, quand on dit les choses, c'est vrai que des fois on peut dire des choses avec légèreté, sans aucune profondeur, sans aucune intention de toucher, d'entamer, d'endommager qui que ce soit. Il dit, mais à force de dire des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles, des critiques, tout simplement, des critiques, eh bien, à la fin, ces paroles, comme la Tzara'at, elles rentrent en nous, elles résonnent en nous de façon encore plus profonde. Et plus je les dis, et plus ça résonne. Au début, oui, je parle du mal qu'il y a là-bas, dans un autre pays, sur d'autres personnes, de façon générale, sans nommer qui que ce soit précisément. D'accord, c'est vrai que c'est un mal qui est, allez, très superficiel. Oui, mais bon, du très superficiel, tu vas passer au superficiel. Et du superficiel, tu vas passer déjà à quelque chose qui est plus proche de toi. Et du plus proche de toi, tu vas passer à dévaloriser même quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Donc il dit, le mal véritablement que cause une personne qui utilise un mauvais escient, sa langue, il est avant tout vis-à-vis de lui-même. C'est pas le mal que je cause à l'autre. Ça, c'est d'autant plus grave. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais ce n'est pas le principal mal dont la Torah a l'air d'avoir un avis très sévère sur le sujet. L'avis très sévère de la Torah sur la Rechilut et le Lashon Hara, il est d'abord et avant tout vis-à-vis de soi. Parce qu'on s'empêche, on s'empêche de donner une valeur, une estime à notre vie. Parce qu'à force de critiquer, à la fin on dit « Bon, enfin, quand c'est critique, je peux me la faire aussi. Hein, » donc, et très vite, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, la critique que j'ai faite vis-à-vis de quelque chose que je croyais qui ne me concernait pas, après réflexion, ah oui, ça me concerne aussi, ah bon, je peux me la faire à moi cette critique. Effectivement, et là, comme on a dit, on arrive à la Hatzvout, on arrive à la Kvedout, on arrive à tous ces parasites, en fait, qui vont mettre des blocages à nos capacités. Et il y a un Zohar qui dit quelque chose de très... Le dibour, c'est déjà, comme on dit, l'expression. C'est déjà le fait de sortir verbalement quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est quelque chose que je sors verbalement. C'est une pensée, c'est une idée. C'est-à-dire, d'abord, j'ai eu l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est Marshava. Il y a un Zohar Mefourash qui dit Marshava, c'est quoi Marshava? C'est les mêmes lettres que Besimcha. L'enjeu de ta Simcha, il part initialement de ta Marshava. Alors, bien entendu, qu'on ne peut pas imposer à l'humanité tout entière, alors maîtrisez vos pensées, attendez. Non, ça c'est un travail qu'on doit faire chacun personnellement. Mais c'est un travail en tout cas qui doit être pris en compte et envisagé de la part de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, d'abord, s'astreindre, éviter de parler des paroles critiques, négatives, qui n'ont pas de significative positive. Mais plus on va dire se débarrasser de ces propos, et plus on va nettoyer au fur et à mesure, de façon raffinée et inconsciente, on va nettoyer notre pensée, et notre pensée sera habituée à avoir une marshava, on va dire, qui n'est pas habitée de choses critiques, malsaines, qui va m'amener la hatzfut. Et dans ça, c'est la partie sourmera. La partie asetov, je pense qu'on en a parlé déjà assez souvent, mais ça, on n'aura jamais fini d'en parler. C'est... On doit avoir autant, et c'est pas vrai, c'est pas autant, c'est plus d'aisance à faire un compliment à quelqu'un qu'à faire une critique. Et malheureusement, naturellement, c'est pas le cas, puisque tout bon comportement est perçu tout de suite comme bah, c'est bien entendu, c'est normal, hein, c'est évident. Alors que, au contraire, on devrait s'habituer. Je finis juste avec un pasouk. Il y a un pasouk qui figure dans Nehemia. Écoutez bien ce pasouk. Là-bas, c'est marqué Vayasu kol hakahal hashavim minashevi sukot vayeshvu besukot. Lorsque Ezra a ramené tous les exilés de Babel en Israël, à Tzion, c'est marqué que toute l'assemblée qui est revenue donc de l'exil à Sukot, ils ont fait des sukot. Ok, bon, jusque-là, c'est normal. Sukot, on fait des sukot. Regardez le pasouk. Kilo asu mime Yoshua bin Nun. Ken ben Israël adayom ahou. Puis depuis l'époque de Yoshua bin Nun, les Bnei Israël n'avaient pas fait de Sukkot jusqu'à ce jour. tous les commentateurs s'insurgent, je ne sais pas, à propos d'histoire. Yoshua Binoun, on parle de toute l'époque des Shoftim. David Ameler, il n'a pas fait de souka. Shlomo Ameler, il n'a pas fait de souka. Tous les rois qu'il y a eu après, qui étaient aussi des... Il n'y a pas eu de souka, de Shalom. Quoi, pendant presque un millénaire d'histoire, il n'y a pas eu de souka en Israël. Vadaï qu'il y a eu. Alors le Metsouda David, sur place, explique. Bémet, la souka qu'ils ont fait en revenant de l'exil, elle avait une portée une significative tout à fait particulière. C'est en fait quand les Israéliens sont rentrés en Israël, 40 ans après leur traversée du désert, ils ont fait des soukhot. Bon, on est chez nous, on fait une soukha. Bon, bah, c'est normal, c'est une mitzvah comme tant d'autres. Et quand ils sont sortis, quand ils ont été expulsés, ils ont été sortis des Eretz Israël, et qu'ils ont compris, ça veut dire quoi vivre parmi les goyim, ça veut dire quoi ne plus vivre chez nous, et qu'ils sont revenus, tout d'un coup, même ces choses élémentaires qui est être chez soi, pouvoir faire la soukha, était devenu un privilège extraordinaire. Et c'est ça la simcha. Donc ils ont fait, comme ça le Metsouda David, en fait, ils n'avaient pas fait la mitzvah de soukha avec une telle simcha depuis l'époque de Yoshua. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, Bémet, la simcha est à portée de chacun. Il faut juste avoir cette conscience et cette volonté, comme le dit le Rambam, de faire cette avodah gdola. Ashrenu matov chalkenu manaim goralenu.